Vous écoutez France Culture.
Dominique Schnapper.
Brice est très pessimiste dans sa lecture. Alors, je voudrais juste répondre à la question qu'il pose à la fin de son papier. Est-ce qu'il y a une fatalité? Et là, ma réponse est très ferme. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que l'inquiétude dont je me fais l'écho ou dont que j'essaye d'analyser ou de comprendre et de présenter n'implique pas que les démocraties vont se suicider. Je sais qu'il y a eu un livre de Jean-François Revel il y a une vingtaine d'années sur ce thème et qui annonçait la fin des démocraties. Et là, je m'inscris en faux parce que je pense que l'histoire n'est jamais écrite d'avance et qu'elle est faite par les hommes, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, selon une formule définitive, mais qu'il n'y a pas de fatalité inscrite. Il y a un risque, il y a une possibilité, et il me semble qu'il faut en prendre conscience, justement, pour éviter qu'elle se transforme par ce suicide qu'évoque Brice dans son dernier mot.
Enfin, tout de même, vous avez recensé vous-même dans votre livre. Pascal Bruckner parle de mélancolie démocratique. Alain Gérard Slama parle de régression démocratique. Marcel Gaucher parle de démocratie contre elle-même. Pascal Perrineau parle de désenchantement démocratique. Philippe Breton d'incompétence démocratique. Pippa Noris de déficit démocratique. Et Cynthia Fleury de pathologie de la démocratie.
Oui, mais vous remarquerez que mon titre n'est pas dans cette série, c'est-à-dire que dans tous ces titres, implicitement, il y a l'idée qu'on finira par le suicide, comme l'évoque Brice, je me suis gardée d'avoir un titre de cette espèce, parce que profondément, je pense que l'histoire révèle des surprises. Nous avons été témoins, disons, de la chute du mur de Berlin. Personne ne l'avait prévu, en tout cas à ce moment-là. Tout le monde l'avait imaginé, peut-être, mais à long terme. Mais elle donnait le sentiment de la sûreté. Et puis, nous avons eu la surprise. Et la surprise des événements, il faut leur laisser leur possibilité. Et encore une fois, le sort des démocraties est dans les mains des démocrates. Et donc, il n'est pas évident que...
Oui, mais les démocrates qui sont, comme vous le dites, de faibles hommes.
Oui, comme tous les hommes, oui.
Oui, mais c'est la faiblesse qui est à l'origine de tout, alors?
Non, c'est le fait que, d'abord, aucun régime n'est...
L'inconstance, la faiblesse.
Aucun régime n'est solide, où les solidités sont souvent plus apparentes que réelles. On peut plaider que, dans sa faiblesse évidente, la démocratie a une forme de résilience qui est supérieure à celle des régimes autoritaires ou totalitaires. Je serais tenté de penser en ce sens-là. Et on peut penser que les hommes sont capables de récupérer leur volonté de comprendre que nous n'avons pas de meilleure idée. Après tout, c'est vers les démocraties que viennent beaucoup de populations qui sont prêtes à risquer leur vie pour arriver dans nos pays.
Vous faites référence toujours à Montesquieu, souvent, donc dans l'esprit des lois, et notamment à la question de la vertu. J'aimerais vous retourner ce que disait Montesquieu, chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zèle sans borne, et donc une sorte de vertu et un amour des lois et de la patrie. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, les citoyens... qui ne seraient plus devenus, si l'on vous lit bien, que des ayants droit. Mais enfin, est-ce que les citoyens sont-ils et ont-ils toujours chevillé au corps ce dévouement à l'égard de la collectivité?
Mais c'est là où on a l'inquiétude, parce que la vertu, dans le sens où Montesquieu l'utilise, c'est pas dans le sens moral, c'est dans le sens politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir le sens, un minimum de sens du collectif et ne pas être uniquement préoccupé de son propre intérêt et d'un propre intérêt qui est très souvent à court terme et mal compris. Et donc c'est là où se porte l'inquiétude, c'est le moment où les hommes démocratiques n'auraient plus du tout le sentiment de l'intérêt général. Et là, on peut s'interroger.
Alors, Thierry Pêche.
Oui, le malaise démocratique, il vient de l'extérieur de la démocratie, d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire, l'assiette de la légitimité est dans les États, dans les États-nations. Et les problèmes sont à une autre échelle, bien souvent. Les problèmes écologiques, les problèmes économiques. On le voit bien avec la crise des dettes souveraines. D'ailleurs, vous avez vous-même souligné le fait que les gens ressentent ça. Ils ressentent ça comme un problème. Donc, finalement, le problème démocratique serait moins aujourd'hui un problème de représentation, ce qu'on commande beaucoup. Est-ce que les gens sont bien représentés? Est-ce que la société est bien représentée? Et plus, c'est un problème d'action collective. C'est la démocratie comme moyen de se gouverner collectivement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner du crédit à la démocratie? Il faut se projeter à l'échelle européenne, lutter contre le progrès de la mondialisation. Quelles seraient vos options pour que la démocratie retrouve une assise et une efficacité, finalement? Parce que ce qui mine la démocratie aujourd'hui, c'est aussi une crise du résultat, pas simplement une crise de la représentation.
J'ai beaucoup plus de peine à répondre à une question quand on me demande de que faut-il faire, parce que ça n'est pas simple et d'une certaine façon, je ne sais pas. Ce que j'essaye de présenter dans ce livre, c'est un effort pour comprendre la source du malaise et essayer de l'identifier. Alors, que le problème vienne de l'extérieur, on en a déjà parlé tout à l'heure et je crois que vous avez raison. D'autre part, bien représenter, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que toutes les formes de la représentation, l'idée même de représentation, veut dire que les gouvernants ne sont pas à l'image des gouvernés et qu'il y a une dimension aristocratique dans l'idée du choix et de la délégation. Et cette crise de la représentation, la représentation a deux aspects, je crois que c'est Madison qui disait ça, il y a une dimension aristocratique dans le fait que ceux qu'on choisit sont plus âgés, plus riches, plus cultivés et on suppose plus soucieux du bien commun que ceux qu'ils représentent, mais la représentation a aussi une dimension démocratique, en le sens que les gouvernants restent sous le contrôle des gouvernés qui peuvent les changer. Et pendant longtemps, on votait pour celui qui était mieux que soi et ça ne posait pas de problème. C'est aujourd'hui où l'exigence démocratique qui fait que nos gouvernés doivent de plus en plus nous ressembler et donc on compare rituellement et régulièrement les caractéristiques des gouvernants avec celles de la société tout entière. Et donc l'idée même de représenter les deux dimensions de la représentation sont maintenant critiquées, c'est-à-dire qu'on n'a pas une représentation assez démocratique. Et c'est, je crois, un des problèmes, parce que nous sommes dans une démocratie représentative et la crise de la représentation en fait partie et elle a des formes particulières, comme vous savez, en France. C'est-à-dire qu'on a un système politique qui est particulièrement bloqué, beaucoup plus bloqué que dans d'autres démocraties voisines. Il n'est pas important que les gouvernants soient à l'image de la société, mais il est très important qu'aucun groupe social ne se sente exclu de la possibilité de participer à l'élite politique. Or, il y a toute une série de catégories de la population aujourd'hui qui ont ce sentiment et ça accentue le sentiment de crise. Une élite trop évidemment détachée de la population qu'elle représente soulève un problème devant l'exigence accrue des démocrates.
Et vous pensez du coup que même au fond l'injonction du mot normal pour un candidat à la présidence de la République promettant qu'il serait normal, donc comme tout le monde, était au fond une erreur ou un trompe-l'œil éphémère?
Bon, c'était lié aux circonstances particulières et du remplacement de Nicolas Sarkozy contre lequel le président normal. Mais je pense qu'il faut à la fois... Nous sommes très difficiles, nous les hommes démocratiques. Nous voulons à la fois qu'il soit normal et qu'il soit différent. Et ça, c'est pas très commode.
Pour l'instant, il est plutôt assez normal et pas très différent.
Il me semble que c'est plutôt son problème.
Oui. Si on en juge aussi par toutes les actualités que l'on sait. Stéphane Rosès.
Oui, je voudrais avec vous creuser, enfin avec les auditeurs et tous, cette question. Parce que vous avez dit tout à l'heure que le retour de l'identité vise à faire face à l'illimité. On entend au travers de ce que vous dites, la chronique de Brice Couturier, que le malaise démocratique viendrait de ce que, finalement, l'individu, dans ses aspirations, à la fois a besoin, au travers de l'autorité dont vous parliez tout à l'heure, d'une forme de dépassement, et au quotidien, comme individu, au travers des réseaux, des marchés, il veut se distinguer des autres et consommer. Et en même temps, il se demande qu'est-ce qui le regroupe avec les autres, qu'est-ce qui fait communauté. Ce qui permettrait peut-être d'être plus optimiste que Brice Couturier et d'aller dans votre sens, c'est finalement de se dire que ce mécanisme part bien des tensions de l'individu lui-même. Le hasard fait que le dernier cours au Collège de France de Raymond Aron vient de sortir et tout à la fin de son propos, il dit qu'il y a, c'est fait en 78, vous le savez, et il dit « Je constate dans la nouvelle génération une montée de l'anarchisme, en fait, du courant libéral-libertaire. » Et la question est la suivante, c'est que les individus aujourd'hui, ce qui fait la difficulté d'analyser les mécanismes sociétaux et sociaux, l'individu aujourd'hui, il veut le retour de l'autorité, mais pas de l'autorité au sens à l'ancienne, mais l'autorité comme forme extérieure à lui qui lui permet de résoudre les problèmes. Et là, on arrive à Hollande, effectivement. Est-ce que le problème ne vient pas de nos élites et de nos dirigeants politiques qui peinent à porter la question de la symbolique du politique comme dépassement des tensions des individus eux-mêmes en partant de ce que l'on est et en disant où on va.
Alors, Dominique Schnapper.
Oui, je pense qu'il y a cette tension entre l'individu et le citoyen, c'est-à-dire que, et là je suis tout à fait votre analyse, c'est-à-dire que l'individu démocratique lui-même n'a pas de limite dans ses exigences, dans ses aspirations, dans son besoin, parce qu'en tant que tel, les besoins ne sont pas limités, les besoins naissent au fur et à mesure qu'ils sont satisfaits. Je pense toujours au besoin de vacances, qui est devenu un besoin tout à fait authentique, et dans la majorité des sociétés connues, le terme même de vacances n'a pas de sens et le besoin de vacances n'en a pas non plus. Or, donc, on crée comme ça des besoins qui deviennent absolument authentiques et disons normaux. Et il y a donc cet individu aux aspirations sans limite et d'autre part, les contraintes du politique qui, du coup, apparaissent comme contradictoires avec ces aspirations sans limite. Le post-humain, par exemple, que la science nourrit, cette idée que tout ce qui est naturel, c'est-à-dire la finitude de la vie humaine, le sexe, l'origine ethnique, tout ça est une invention sociale et qu'elle n'existe plus, il n'y a plus de nature d'une certaine façon, c'est la négation de l'idée de nature, se trouve en contradiction avec les contraintes de la vie collective, les contraintes de la représentation qui impliquent des délais, des procédures juridiques, lentes, coûteuses, tout ça est contradictoire avec ces aspirations à la fois illimitées et exigeante immédiatement. Il faut répondre immédiatement. Or, les temporalités diverses ne se confondent pas et la temporalité des décisions politiques n'est pas du tout du même ordre que la temporalité des aspirations quotidiennes des individus. Et donc, il y a ce danger que l'aspiration naturelle à la liberté, si elle refuse de s'inscrire dans le mode traditionnel imposé par la réglementation collective, deviennent une forme d'anarchisme qui se fait toujours aux dépens des plus faibles, parce que les institutions fortes et les lois fortes protègent les plus vulnérables.
Thierry Pêche.
Oui, vous avez dit à plusieurs reprises tout à l'heure qu'il y avait un affaiblissement particulier de la nation en France. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi tous les auditeurs ne vous ont pas lu ? Je pense que ce serait utile. Ensuite, j'aurais sans doute une question sur ce sujet à vous poser.
Dominique Schnapper.
Parce que l'identité française s'est beaucoup faite autour de l'histoire nationale. D'une certaine façon, nous sommes, je crois, avec le Japon, le pays dans lequel l'idée de l'État-nation, qui est la confusion de l'unité culturelle et du pouvoir politique, est la plus poussée. Toutes les autres nations démocratiques admettent, vous parliez tout à l'heure des langues régionales, et c'est ce qui explique la crispation autour du problème des langues régionales, parce que l'identité nationale s'est faite autour de l'unité étatique et de l'unité linguistique. De sorte que, à tort ou à raison, les Français ont le sentiment que quand la grande nation, c'est la France. La France a vécu sur l'idée qu'elle avait inventé l'idée de la nation, ce qui historiquement n'est pas exact, mais qui fait partie de la façon dont nous racontons notre propre histoire. Et donc la remise en cause objective de la nation, du pouvoir national, des instruments du pouvoir national, remet plus en cause les liens sociaux que dans d'autres pays dont l'histoire est une histoire beaucoup plus multiple et diverse et qui admet cette multiplicité et ces diversités comme une partie de son histoire.
Donc cette idée de nation a été pour nous la manière de nous croire unis.
Voilà, de nous croire unis et de nous croire uniques aussi.
D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous demande ce qu'il faudrait faire, mais à
c'est
défaut
pas que
pouvoir...
je n'aime pas, c'est que je ne sais pas répondre. Alors, on n'aime pas les questions qu'elle en aime
intuition,
pas. Et
votre intuition, à titre personnel, vous en avez certainement. Il vous arrive de devoir choisir, de devoir
pencher.
Je vote
pencher. Régulièrement.
Et voilà, ça ne m'avait pas...
Ça ne vous a pas échappé.
Je ne m'en doutais pas. Et donc, j'ai envie de vous dire, comment on refait de l'unité aujourd'hui?
Comment on refait l'unité?
Oui, comment on refait de l'unité?
Peut-être, proposons la question peut-être plus précisément. Comment jugez-vous justement aujourd'hui un discours dont on dit qu'il a changé, qui est par exemple celui d'un parti politique comme le Front National, qui se réclame justement des valeurs républicaines, qui souhaite les restaurer, attachées à la laïcité, attachées à la question de l'égalité, vilipendant une classe politique qui justement n'assurerait plus éventuellement ses responsabilités et l'action pour le bien commun, et aujourd'hui donc affectant d'avoir effectivement mué, hein, avec ce beau mot de républicain,
le Front National, laïcité,
un parti républicain. Oui,
absolument. Alors, si on veut être optimiste, on peut dire qu'après tout, c'est un hommage du vice rendu à la vertu. On peut dire aussi que si le Front National a adopté ce langage, c'est qu'ils pensent que c'est le langage qu'il faut tenir et que c'est celui qui a un écho.
Et qui parle donc, comme dirait Stéphane Rez, quoi, à l'imaginaire français,
qui parle
de la nation,
à l'imaginaire français,
de l'unité, de la République.
Qui parle aux valeurs des Français, que pour attirer des électeurs, c'est le discours qu'il faut tenir. Et je crois qu'il faut, il faut en tenir compte l'analyse qui est sous-jacente, c'est on arrivera au pouvoir que si on tient ce discours. Et par conséquent, c'est un discours légitime qu'il faut tenir. On peut aussi considérer que ce discours recouvre des sentiments et des options qui sont, elles, directement contraires aux valeurs réelles de la République.
C'est-à-dire que c'est là, au fond, quoi, que la démocratie viole ses propres valeurs?
Dans le cas du Front National, oui, les valeurs qui, en dehors de ce discours récent et parfaitement républicain, qui utilise les thèmes du discours républicain, il y a aussi dans le cœur du parti et dans les dispositions qu'ont prises les responsables du parti qui sont arrivés au pouvoir, mais au pouvoir local, des manières de penser et des manières d'agir qui sont, elles, directement contradictoires avec les valeurs républicaines dans la réalité.
Est-ce que le problème pour le Front National et Marine Le Pen, ce n'est pas seulement la question de la République et de la démocratie, mais même la question de la France? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Marine Le Pen? C'est qu'elle n'aime pas la France en ce qu'elle ne comprend pas que depuis des siècles, la façon dont les Français se sont assemblés a toujours été dans une réflexion sur comment organiser, autrefois sous la forme religieuse du catholicisme, puis la République, et ensuite des formes de projection diverses dans l'espace et le temps, la France n'a pas-t-elle été justement une construction dans l'articulation du rapport à l'autre, de sorte que l'idée d'une France fermée, qui est ce que promeut Marine Le Pen, c'est-à-dire une conception pas tant de la nation, mais sans doute plus une conception nationaliste, montre à quel point, justement, le génie français n'est pas compris par elle et sa famille politique comme étant, justement, ayant été un assemblage permanent de la diversité et des modalités pour l'organiser.
Dominique Stapper.
Oui, je pense que vous avez raison, mais est-ce que vous croyez qu'il y a une élaboration aussi sophistiquée de leur rapport à la France? Moi, je pense que c'est un parti qui a essentiellement une stratégie, qui utilise des passions, qui veut répondre à des passions, et dire qu'elle n'aime pas la France, disons qu'elle utilise le terme de la France parce qu'il y a cette crise de la nation dont nous avons parlé à deux ou trois reprises ce matin, et qu'elle touche là quelque chose qui fait mal, c'est-à-dire le sentiment de beaucoup de Français que quelque chose est en train de se déliter. D'autre part, la nation a toujours été plutôt protectrice des classes modestes auxquelles elle s'adresse, et on le voit, comme vous savez, dans les sondages, où les plus européens sont plutôt parmi les plus cultivés, les plus nantis, les plus établis, et c'est plutôt les plus modestes qui appellent la protection nationale. Et donc, elle utilise ce thème parce que c'est le thème qui peut toucher le public auquel elle s'adresse. Alors, nous pouvons constater que on a réuni la France autour d'une langue et de l'invocation de principes républicains communs. Mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment son problème à elle.
D'autant que vous prenez parti, on pourrait dire quasiment vous dans votre introduction, de façon, comme vous êtes toujours, extrêmement, d'ailleurs, respectant les normes du chercheur et de la sociologue que vous êtes. Mais enfin, vous dites, la position réactionnaire est de toute façon un obstacle à la compréhension.
Oui,
le passé... De nos malaises démocratiques.
Oui, de toute façon, on ne retrouvera jamais la situation du passé. L'idée qu'on reviendra à la République de Jules Ferry est une façon de refuser de voir que la société s'est transformée, que la situation s'est transformée. Donc, il ne faut pas être... On peut éventuellement être conservateur, mais il ne faut certainement pas être réactionnaire, parce que ça empêche de comprendre ce qui se passe.
Une dernière question sur la question européenne. Est-ce que le malaise ne vient pas quand des politiques ou des systèmes de gouvernance ne correspondent pas à ce qu'est une identité, un modèle? Est-ce que vous ne croyez pas que la crise européenne vient de ce que les politiques de libre-échange, de libre concurrence, ne sont pas conformes au génie européen qui a été pendant des siècles de savoir rassembler la diversité culturelle dans un prolongement de ce que l'on a à faire ensemble au plan européen?
Dominique Schnapper.
Je ne sais pas si c'est pas conforme au génie européen. Ce qu'il me semble, c'est que pour l'instant, il n'existe pas ce qu'on peut appeler un peuple au sens politique du terme, un peuple européen. Autrement dit, les citoyens de l'Europe ne considèrent pas comme démocratiquement légitimes les institutions européennes. Et c'est ça le fondement du problème, c'est qu'ils ne considèrent comme légitimes que les pouvoirs nationaux et non pas les institutions qu'on est en train de créer au niveau européen. Et qu'il faudra du temps, il a fallu des siècles
mais
pour construire les nations.
Mais vous croyez ça, qu'il puisse y avoir un peuple européen?
Pourquoi pas?
Mais il
a fallu des siècles
temps.
Pour construire un peuple national. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour construire un peuple européen. Mais je ne vois aucune raison pour laquelle les peuples de l'Europe, qui sont objectivement tout de même très proches les uns des autres, ne formeraient pas un jour un peuple politique.
C'est une conception très française, Dominique Schnapper. C'est une conception très française.
Pas sous la forme d'une France étendue à l'Europe, il y a des formes politiques tout à fait différentes, et le fait de sentir qu'il y a une légitimité à des institutions européennes, pourquoi est-ce que les Européens ne construiraient pas cette légitimité, des formes politiques nouvelles qui permettraient de faire exister un peuple politique européen?
Merci Dominique Schnapper. Je peux vous poser une petite question? Je n'ai pas identifié, sans doute à cause de mon inculture crasse, mais je trouve que votre livre est mis sous les auspices avec une exergue très étrange. Par-delà la mort, point de suspension.
C'est personnel.
L'esprit démocratique des lois, Dominique Schnapper, chez Gallimard. Et puis, tiens, je vous offre le numéro d'esprit de février 2014, La corruption malade de la démocratie, avec des articles Alice Béja, Garapon, Marcel Hénaff et d'autres encore. Ça vient de sortir. On va terminer avec un peu d'allégresse, celle de régionaux. C'est des Catalans. La Troba, ça s'appelle Rumbia. Frapper des mains, Dominique Schnapper, et accompagner le rythme, vous pouvez. Je vois que vous n'êtes pas insensible à ce groupe catalan. Dernier album, Santa Alegria, le groupe catalan La Troba Kung Fu.